des réunions où le GIS Climat a joué un rôle dans l'organisation de réflexion sur l'impact du changement climatique sur la forêt. Donc, Sylvie l'a dit, le premier était l'adaptation de changement climatique, forêt, espace naturel et biodiversité, qui était la troisième réunion de ce type dans cette série, qui était suivie presque tout de suite par un autre colloque au Sénat, forêt et enjeux d'avenir, où le GIS était aussi partenaire. Donc, je veux relater au moins une partie de ce qui était dit dans ces deux discussions. Je vais m'axer sur ce qui était dit concernant les forêts en France. Ça l'est dit, je vais essayer de quand même élargir de temps en temps concernant ce qui était dit pour les forêts au Québec. Donc, c'est peut-être utile de prendre un peu de recul historique. L'exposé de Claire était très utile pour ça. Jusqu'aux fin des années 80, début des années 90, entre l'augmentation de la température atmosphérique, la déposition d'azote atmosphérique et l'augmentation de saison de croissance à cause de modifications de température, on voyait une augmentation de croissance des arbres, même corrigée pour l'âge. Et l'attitude des forestiers était super, on va continuer comme ça, très probablement pendant au moins plusieurs décennies, voire vers la fin du siècle, même si certains modèles suggéraient qu'il y avait des dangers au fin de siècle. Mais plus récemment, il y a eu beaucoup de modélisations de fait sur l'impact du changement climatique sur les forêts qui sont plutôt négatives concernant l'avenir de nos forêts, y compris sur les échéances de quelques décennies. Et en plus, on commence à voir des déparissements qui sont relativement importants sur le pin sylvestre, sur le hêtre, sur certains chênes. Et en plus, on commence à voir depuis la fin des années 90, il y a une étude qui vient de sortir sur l'ensemble des hêtres sur la France. On est dans une phase de diminution de croissance de hêtres. Donc c'est entièrement cohérent avec ce que Claire vient de montrer. Donc on a une sorte de cohérence entre les modèles commence à montrer et ce qu'on commence à voir dans la forêt. Donc je vous montre un peu l'état des affaires. Il y a 2-3 ans, ce modèle sort d'une étude qui était faite pour Carbofort et par la suite dans Carbofort Extrême. Et il montre la distribution actuelle de hêtres en France, où la couleur bleue est une présence relativement faible. Et allant vers, ça c'est le rouge, en allant vers le noir, c'est les très fortes présences de hêtres, avec la partie jaunâtre, vraiment moche, étant aussi des régions avec beaucoup de hêtres. Donc, c'est une application de modèle qui est relativement simple, très empirique, corrélative ou statistique plutôt. Et l'idée, c'est d'utiliser des scénarios climatiques, ici couplés avec des émissions de gaz à effet de serre relativement extrêmes. Et ce qu'on montre avec cette étude est une disparition quasi totale de hêtres en plaine d'ici 2100. Et cette étude en particulier, mais l'ensemble des études sur les forêts, y compris au Québec, suggérait que le changement climatique aurait plutôt un effet très négatif sur les forêts. Et il y a peut-être 5 ans, peut-être encore plus loin, les forestiers ont commencé à vraiment s'inquiéter concernant l'avenir des forêts. Les chercheurs ont bien fait leur travail en termes de, on fait notre travail, on vous donne nos estimations d'impact, et les forestiers, ils ont dit, ok, on vous croit maintenant, plus ou moins, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là où on a beaucoup plus de difficultés
car il n'y a eu, pas eu un dialogue très fort avec les gestionnaires concernant l'utilisation de modèles et surtout ce qu'il fallait faire en termes d'adaptation en face de ce problème de changement climatique. Donc il fallait presque revenir à zéro pour essayer de recommencer les dialogues avec les gestionnaires et aussi repenser notre façon de présenter la science aux gestionnaires et aussi aux politiciens. Donc, je tire de le colloque au Sénat des constats de Jean-Luc Perron, qui est le directeur de l'EcoFort. Et je pense qu'il est un bilan très clair de ce qu'on pense maintenant en termes de besoin de gestion de forêt pour l'avenir. Donc, premièrement, il faut développer des méthodes de gestion dans l'incertain, car on ne peut pas tout prévoir. Donc, il y a 2-3 ans, la demande de gestionnaire de forêt était « Ok, le climat va être néfaste pour mon forêt, l'être ou d'autres espèces pins sylvestres risquent de mourir sur telle et telle placette, dis-moi ce qu'il faut planter. » Et l'attitude de quelque part des chercheurs était « Ok, on va essayer de faire notre travail, on va essayer de donner aux gestionnaires des pistes pour réfléchir sur ce qu'il faut planter. » On est plutôt, comme il a dit Jean-Paul, dans une situation maintenant où on est plutôt sur une base de communication sur l'incertitude. Donc c'est surtout comment on gère l'incertitude et pas comment on gère l'incertitude concernant le futur des forêts. Deuxièmement, il faut oublier une gestion sur un seul critère, par exemple la production de bois, mais surtout sur une gestion multicritère. Je vais revenir sur les raisons pour lesquelles ça c'est surtout intéressant. Aussi savoir qu'il n'y a pas une seule solution, qu'il y a plusieurs solutions et on peut seulement trancher sur solutions en collaboration à la fois avec les gestionnaires mais aussi avec la société. Et c'est qu'à partir de ça qu'on peut identifier les solutions qui sont acceptables. La première chose que je veux faire, c'est un peu de faire la base de comment on fait les projections de l'impact sur les forêts et de voir où sont les incertitudes. Donc juste un diagramme relativement simple. Il y a plusieurs sources d'incertitudes relativement importantes. Donc le plus important étant l'évolution de notre société et croissance de population, des émissions de gaz à effet de serre. Par la suite, on a des incertitudes qui sont liées avec les facteurs qui pilotent le changement de diversité, le changement sur les forêts. Ici, par exemple, le changement climatique, mais il faut aussi garder en tête qu'il y en a d'autres qui vont interagir très fortement avec le changement climatique, comme l'utilisation de terres. Et par la suite, on va voir les incertitudes qui sont liées avec les impacts directement sur les forêts. Et par la suite, et encore plus compliqué, on va modifier le fonctionnement des écosystèmes et il y aura un retour sur la société. Et pour l'instant, les modèles, en général, ou presque dans leur totalité, ne prennent pas en compte ce retour vers la société. Donc, ce que je veux faire, c'est de prendre chacun de ces incertitudes en compte. Les incertitudes liées avec des facteurs pilotant l'impact sur les forêts, ici le changement climatique. Je vais revenir plus tard sur les incertitudes socio-économiques. Cette graphique ici, c'est une graphique qui montre les modèles climatiques qui ont été faits pour le quatrième report de l'IPCC. Et ce que vous avez ici, c'est la différence entre la température mesurée entre 1960 et 90. Sur la ligne 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de modification de précipitation dans le futur par rapport à cette période de référence. Et si c'est positif dans l'axe température, ça veut dire augmentation par rapport à cette même période de référence. Est-ce que vous voyez ces deux choses? Premièrement, en moyenne, on a une augmentation de la température et une diminution très forte de précipitations. Gardons en tête qu'à Paris, on a entre 550 et 600 mm de précipitations par an. Et ça, c'est une baisse à peu près 300, pour certains modèles, de 300 mm par an, moyenné sur la France. Donc, c'est des baisses de précipitations qui sont extrêmement élevées. L'autre chose qui est importante, même si quelques points, vous ne voyez pas très bien, et la variation qui est associée à ça, et ça c'est quelque chose qu'on commence à communiquer de plus en plus. Il y a certains scénarios, il y a certaines projections de climat où la modification de température et de précipitation sont relativement faibles. Il y en a d'autres où la modification de précipitation de température sont extrêmement élevées. Donc il faut garder ça en tête quand on commence à regarder l'impact du changement climatique sur les forêts. Il y a en moyenne une baisse de précipitation, une augmentation de température relativement importante, plus de 2 degrés, mais une variation qui est énorme. La deuxième source d'incertitude est la source peut-être le plus important, où il y avait certainement moins de travail fait auparavant. Et dans ce contexte-là, dans un projet ANR, avec des travaux qui ont été aussi continués dans le contexte de projet Humboldt, c'était de regarder l'impact du changement climatique sur les forêts en comparant plusieurs modèles. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est des études qui sont plus ou moins finies pour un scénario climatique donné. Donc, il est représentatif de la moyenne de scénario climatique ou projection climatique que vous venez de voir. Donc, une augmentation d'un petit peu plus de 2 degrés et une diminution de précipitation de plus de 150 mm par an. Et quand vous allez voir des valeurs ici, pour chaque région, donc on a divisé la France en grandes régions, qui représentent des régions qui sont définies à la fois par la végétation et par le climat. Et quand la valeur est négative, c'est la disparition d'êtres ou le climat qui est favorable pour la croissance d'êtres dans cette région. Et quand la valeur est positive, c'est une augmentation de surface pour cette même essence. Et ce que vous voyez, et en plus, et ça c'est le plus important dans cette étude, est que nous avons utilisé pour le être au moins 6 modèles différents. Donc Biomode et NBM sont des modèles statistiques extrêmement simples, basés sur la répartition actuelle des espèces, en passant par 2 modèles Stash et Phenophyt qui sont un petit peu plus compliqués, mais relativement simples par rapport aux 2 modèles en haut, LPG et Castagna, qui sont des modèles très sophistiqués, qui prennent en compte la photosynthèse des plantes, leur croissance, l'évapotranspiration, et dans le cas de l'LPG, même parfois la compétition avec d'autres espèces. Donc ce qu'on voit pour cette carte ici sont des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui temporisent pas mal ce qu'on a dit il n'y a pas très longtemps aux forestiers concernant le hêtre. Donc surtout, on va regarder la partie nord-ouest en détail de la France. Et ce qu'on voit très clairement est que les 2 modèles statistiques prévoient une disparition totale ou climat favorable pour la hêtre d'ici 2050 sur la partie nord-ouest de la France, donc y compris la région parisienne. Par contre, le modèle plus mécanistes, Castagna et LPG, prédit des effets beaucoup plus faibles, voire une légère augmentation de distribution d'êtres dans cette même région. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ce genre de résultats? Bon, on peut aller dans les détails, beaucoup de détails concernant ces différents modèles. Ce qui est assez intéressant, c'est que ces modèles et ce modèle ont été tous les deux validés contre les distributions pendant toute la Holocène de être. Et ils marchent tous les deux aussi bien. Bon, pas parfaitement, mais ils marchent relativement bien. Donc, on est sur des modèles où sur le passé, ils marchent relativement bien, mais qui divergent totalement sur le futur. Donc, une partie de cette réponse, et c'est, il y a plusieurs équipes qui ont déjà fait ce constat, ont refait un constat pour le être, et que si on injecte les effets de CO2 sur la croissance des arbres, donc on peut faire que dans des modèles qui sont plus mécanistes, cette CO2 dans l'atmosphère stimule la croissance et contrecarre les effets néfastes de changement climatique. Et en fait, ça c'est des simulations où on a enlevé les effets de CO2, donc on a gardé les CO2 constants pendant cette période, et effectivement, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais on a montré très clairement, ces modèles aussi prédit la disparition quasi totale d'être en plaine. Donc une explication relativement facile, on pense que peut-être des modèles statistiques sont un petit peu plus trop pessimistes parce qu'ils n'incorporent pas le CO2. Donc ça c'est de bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle est les simulations qu'on a fait pour le panne sylvestre. Et vous voyez à peu près les mêmes choses. Beaucoup de disparition dans le Jura, dans le nord-est, presque disparition totale sur l'ensemble de nord-ouest de la France. Donc je reprends ici. Et cette fois-ci, vous voyez que les modèles sont quasiment identiques. Bon, une certaine variation, mais ils prédisent tous presque une totale disparition de pins sylvestres d'ici 2050 sous cet changement climatique. Plus chaud, plus sec. Et cette fois-ci, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a même presque un indicateur de cette disparition. Il est étroitement lié avec la température. Donc il rejoint ce qu'elle a dit Claire concernant les indices qui sont couplés avec la croissance des pins sylvestres. C'est une espèce qui est une essence qui est très sensible à forte température, et les modèles sont quasiment tous d'accord sur sa disparition. Et ça c'était intéressant pour des gestionnaires et des décideurs, car pour l'instant ils sont plutôt se focaliser sur le être. La mauvaise nouvelle est que même quand on injecte le CO2 dans ce modèle-là, et c'est là qu'on n'est pas du tout en accord avec la plupart des autres études récentes, et que le CO2, dans ce cas-là, ne confère aucune protection concernant l'impact du changement climatique sur cette essence. Donc, on peut à partir de ça dire peut-être des choses sont peut-être pas aussi négatifs pour le être que prévu. Ils sont peut-être très néfastes, voire plus néfastes pour le pin sylvestre. À ça, il faut rajouter l'importance de d'autres facteurs qui sont extrêmement mal pris en compte pour l'instant. Donc l'un est l'impact des événements extrêmes. On commence juste maintenant à aborder ces questions des événements extrêmes. Donc une équipe à l'AIRFOB qui travaille sur les événements extrêmes, avec pour l'instant des résultats qui ne sont pas extrêmement probants, et des observations où on n'a pas du tout des modèles très fiables pour l'instant, ou des observations qui suggèrent que les interactions climat-insectes-arbres peuvent être aussi extrêmement importantes. Et on voit ici, par exemple, l'été de 2003 et une pullulation extrêmement importante de scolytes de sapin
à partir de cette période-là, probablement lié avec un dépérissement, un affaiblissement des arbres après la sécheresse de 2003. Et en plus, pas seulement la sécheresse, on voit ici chaque fois avec des effets parfois très divergents, donc une diminution de scolite du pin après cette même sécheresse, et aussi des effets très importants de tempête de 99. Donc on voit très clairement que les insectes, les attaques des insectes peuvent être aussi extrêmement importants. Je vais zapper ça. Lié à ça, on a aussi des effets d'incertitude socio-économique. Donc, qu'est-ce que veut notre société faire en termes de l'utilisation de bois? On va payer pourquoi? Est-ce qu'on va continuer à utiliser autant de bois? Est-ce qu'on va utiliser encore plus de bois, qui semble être plutôt la priorité actuelle? Qu'est-ce qu'on va penser en termes de l'importance de forêts, en termes de leur place dans l'environnement? Est-ce qu'on va être prêt à payer pour des services écosystémiques au-delà de production de bois? Donc il faut garder en tête que les forêts ne sont pas juste là pour produire le bois. Ils sont aussi là pour plein d'autres choses. Ils régulent la qualité de l'eau, le stockage de carbone, la pollinisation. Ils sont liés avec des services culturels comme la récréation, le tourisme et autres. Et quand on regarde, et ça c'était des chiffres qui étaient fortement débattus, mais quand on regarde l'ensemble des services écosystémiques et on commence à chiffrer ces services écosystémiques, la production de bois est qu'une toute petite partie, une partie relativement faible que la valeur totale d'une forêt. Les valeurs culturelles et les valeurs en termes de régulation de services sont beaucoup plus importantes que la valeur de production de bois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en face de ces problèmes de changement climatique? Gardons en tête qu'on a aussi ces contraintes socio-économiques et des incertitudes socio-économique. L'idée, c'est de plutôt gérer pour l'incertitude, et on a trois grandes façons de le faire. Un est de renforcer la résilience des écosystèmes en utilisant des processus naturels. L'autre est de diminuer le temps qu'on laisse pousser les arbres avant de les couper. Donc, si le climat change, on le coupe. Et le troisième est d'introduire des génotypes ou des essences qui sont préadaptées à des climats plus secs et plus chauds. Donc la première, et ça c'est des constats maintenant qui sont relativement bien réfléchis, même s'il y a beaucoup de travail qui reste à faire. L'une des possibilités est d'augmenter la résilience en utilisant des forêts mélangées. Donc plus d'essence, plus de diversité de réponse, donc plus de résilience potentiellement. Surtout en respect de connaissance de l'écologie des arbres, de bien planter des arbres dans les sols où ils sont bien adaptés, d'éviter les activités de foresterie qui abîment le sol et diminuent la capacité de sol de stocker de l'eau, ou de diminuer l'évapotranspiration par la gestion de l'indice foliaire. Premièrement, de gérer la résilience. Deuxièmement, est de réduire le temps de rotation des arbres. Donc ici, l'extrême, c'est-à-dire on coupe tous les 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, des arbres qu'on pousse surtout comme le Douglas ou d'autres conifères où on peut couper après 50 60 années de croissance au lieu de entre 120 150 parfois pour des chênes. Troisième possibilité, de planter des arbres donc ici plutôt indigènes mais plus au nord, le pin ricio, ou de carrément introduire des espèces d'ailleurs, comme en Australie, où on plante ici, parce qu'ils sont bien adaptés aux sécheresses. Donc, la dernière chose que je vais faire, c'est de voir on a commencé à explorer ensemble avec les gestionnaires et aussi des décideurs,
d'essayer d'identifier les solutions qui sont acceptables, et que cette acceptabilité est quelque part où on retrouve à la fois ce qui est faisable ou feasible, hein, faisable économiquement, écologiquement et socialement, qui est acceptable socialement. Et on peut identifier quelques transitions majeures qui sont peut-être pas trop difficiles à accepter. Donc l'un est de gérer nos forêts mixtes ou des forêts qui sont en régénération naturelle, mais coupées plus fréquemment, donc de diminuer le temps de rotation, mais pas trop trop. L'autre est de remplacer nos plantations souvent de conifères, mais pas toujours, avec d'autres conifères qui sont plus adaptés aux sécheresses. Un autre est potentiellement de changer des terres abandonnées en très courte rotation. Mais ce qui est peut-être pas acceptable est de prendre nos forêts, des forêts en régénération naturelle, souvent mixtes, et de transformer ça en plantant des espèces qui sont adaptées au changement climatique, surtout pas en introduisant les espèces exotiques, et peut-être encore moins de les couper et les remplacer avec des taillis à très courte rotation. Donc, pourquoi on accepte pour l'instant? Ces solutions sont socialement peu acceptables, même si l'ensemble sont actuellement sous considération par les gestionnaires privés et public. Et est-ce qu'on n'accepte pas purement à cause de nos questions de normes, parce qu'on n'est pas d'habitude de voir ça, ou est-ce qu'il y a des raisons écologiques et on commence à travailler sur les réponses écologiques, et aussi des raisons pour lesquelles, en termes de services écosystémiques, que ces solutions sont peu acceptables. Dernièrement, pour conclure, il faut de manière générale être vraiment détaillé concernant les solutions possibles pour éviter des amalgames. Il faut avoir une vision très large et être en même temps détaillé. Et surtout, il faut avoir des approches collectives. Et c'est peut-être cette approche multicritère sur l'ensemble des services écosystémiques qui peuvent faciliter ce dialogue entre gestionnaires publics et scientifiques, pour avoir des critères qui recoupent des différentes disciplines et entre la science et décision. Dernière diapo. Pour aller plus loin, il est nécessaire immédiatement, très rapidement, pour avoir les outils beaucoup plus poussés pour l'aide à la décision. Donc, par exemple, dans ce cas-là, nous avons déposé un projet à l'FRB qui s'appelle Mobilis pour regarder ces outils à l'aide des décisions qui se focalisent plutôt sur la viabilité des écosystèmes au lieu de regarder une solution optimale. C'est un peu aussi quelques idées qui sont dans le LabEx Act. Donc merci à Nathalie. Je pense que c'est entre nous deux qu'on a introduit les forêts dans le LabEx Act. La nécessité d'améliorer nos modèles, donc surtout le projet Humboldt se focalise sur ces questions-là, d'améliorer le dialogue entre scientifiques, gestionnaires des forêts et des politiciens. Donc Vincent Badaud est à Marseille demain et après-demain pour présenter aussi ce même travaux. Et a besoin de développer des indicateurs très simples qui peuvent être partagés entre les scientifiques, le public et les décideurs. Et c'est aussi une partie importante du projet GIS Climat Humboldt. Et s'il est financé, parce qu'il est une liste complémentaire, le projet Mobilis. Donc, et merci.